Loup. On se bouge dans ce journal avec du beach soccer, du surf et du trail. On parlera gros sous avec la CPS et la future taxe sur les billets d'avion. Et puis en fin d'édition, ce livre sur les couronnes. Et ce journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
Direction Doha pour aller Tiki Toa.
Eh oui, car c'est bien aux Émirats Arabes Unis qu'aura lieu le prochain mondial de beach soccer. Ce sera en février 2024 et la sélection tahitienne s'y est qualifiée ce week-end. Le parc Aorei Tiniao accueillait, vous le savez, la semaine dernière, la Coupe Océanienne des Nations. Et les Tiki Toa avaient signé un parcours sans faute jusqu'à la finale de samedi contre les îles Salomon. Les îles Salomon, des pionniers du beach soccer dans la région, mais les Tahitiens étaient bien les favoris et ils ont honoré leur statut. 7-0, score final. Le capitaine Rayman Ali Funkui ne pouvait être que très satisfait. Écoutez.
C'était la première étape, on va dire, pour nous de remporter cette qualification océanienne pour avoir notre ticket pour la Coupe du Monde. Après le match, très satisfait. Je pense que cette finale, on l'a gagnée avec la manière. Déjà, on n'encaissant aucun but, qui n'est jamais arrivé dans une finale de océanienne. Fier, très fier de l'équipe, de l'ancienne génération dont nous faisons partie, ainsi que la nouvelle. Je pense qu'il y a un bel avenir pour le beach soccer polynésien.
Voilà, une victoire très collective, puisque 6 joueurs différents ont marqué pendant le match, dont 3 pendant les 5 premières minutes. Jean-François Martin, PDG de l'OPT, mais également membre très actif de la Fédé de foot, ne peut qu'applaudir. On l'écoute au micro de Caroline Perdry.
C'était un match très sérieux, très appliqué, très concentré. On l'a vu sur les 2-3 premières minutes où on a mis 3 buts très importants qui ont pillé le match, il faut le dire. Et seulement, on n'a pas trouvé les clés, mais on est resté appliqué tout du long, très concentré. Physiquement, on était très prêts. On a beaucoup travaillé depuis 7 mois maintenant. Et les sacrifices que les joueurs ont fait, le staff aussi, ça paye. Voilà, et on est qualifié pour la 7e Coupe du Monde consécutive, ce qui est assez extraordinaire.
Voilà, à noter que le gardien tahitien Jonathan Toroia a été nommé gant d'or du tournoi. Eroari Salem est le meilleur joueur de cette édition. Quant au Fidjien Gabriele Matatseniga, dont l'équipe termine 3e du tournoi, il est lui le meilleur buteur, notamment grâce à un 12-0 contre les Tonga. C'était en petite finale.
Et des médailles en surf ce week-end.
Oui, d'abord avec la 7e Vaine Cup qui s'est terminée hier. 3 jours de surf 100% féminin au spot de la Taharu, avec une houle modeste mais qui a permis à toutes les compétitrices de s'exprimer, et notamment à Kiara Gold qui s'impose dans la catégorie reine, le Surf Open. A noter aussi les belles performances de Takiei Elakote et Miliani Simon dans les catégories Benjamin et Minime. Du surf aussi en métropole où Kaoli Vast a encore brillé dans les vagues de la côte basque. Le prodige de la presqu'île s'était hissé en finale de la Rip Curl Pro Anglette, dans laquelle il s'incline pour 0,03 points face au français Thiago Carrig. Thiago Carrig, 21 ans, qui avait déjà battu en quart de finale un certain Michel Bourrez, toujours en quête d'une qualification olympique.
Et puis un mot aussi de course à pied.
Course en montagne ou plutôt en vallée avec le Red Vittel qui pour sa 17e édition a connu de nouveau un beau succès à la Papeno. 700 participants pour des courses ou des marches nature et même des canicross. Fulbert Garra s'impose sur le petit trail, 12 km tout même, et c'est le marathonien Damien Trocnet qui prend la première place du 25 km devant Teva Poulin.
Une nomination très attendue à la CPS.
Oui, très attendue, mais pas encore confirmée. Celle de Romy Namma, on vous en parlait en fin de semaine dernière. L'actuelle directrice adjointe du budget et des finances du pays est pressentie pour prendre la direction de la caisse laissée vacante par Vincent Fabre au mois de mars. Le poste de directeur de la CPS est bien sûr stratégique, surtout dans le contexte actuel de tensions et de besoins de réforme de la protection sociale généralisée. Raison pour laquelle le ministre de la Santé et de la PSG, Cédric Mercadal, mène depuis plusieurs semaines un processus de sélection rigoureux. Écoutez.
On a eu une commission d'évaluation des candidats. On s'est retrouvé avec 3 candidats. Et celle qui a été pressentie, eh bien, Madame Ma, qui a réussi au niveau de la commission à faire l'unanimité. Donc là, on a proposé à la signature du président sa candidature, qui est aujourd'hui au niveau de l'Assemblée. Et le processus va être en cours jusqu'à présentation auprès du conseil d'administration de la CPS. Puis derrière, une nomination possiblement en conseil des ministres.
Voilà, trop tôt donc pour confirmer la nomination de Romy Namma, mais c'est bien parti. La spécialiste de la chose budgétaire a fait l'unanimité dans la commission d'évaluation et sa candidature doit être présentée dès ce lundi en commission de l'Assemblée. Le ministre de la Santé semble confiant dans l'aboutissement de ce processus mais se refuse à toute annonce précipitée.
J'ai bien entendu le fait qu'il n'y avait pas d'opposition majeure à sa candidature, mais elle doit se présenter, elle doit discuter avec eux et c'est normal. Mais c'est une belle personne qui permettra d'amener beaucoup de choses au niveau de la caisse. On aura nommé la personne d'ici la première quinzaine de septembre, tout devrait être réglé pour pouvoir entamer le budget.
Voilà, et pour illustrer les défis budgétaires de la CPS, cette étude présentée lors du conseil d'administration de vendredi, révélée par Polynésie la Première, une étude qui estime que le taux de cotisation devrait passer de 15 à 20% pour équilibrer la branche maladie, hors de question tant pour les syndicats que pour le patronat.
Une nouvelle communauté de communes.
Elle s'appelle Teporionu et elle regroupe Papeete, Pirée et Aroué. On vous en parlait déjà il y a quelques mois, les trois municipalités de la zone urbaine voulaient aller plus loin que leur syndicat intercommunal créé en 2010. Eh bien c'est chose faite, le commissaire a signé un arrêté fixant le périmètre de cette quatrième communauté de communes du Fénois. Les Tavanas ont maintenant trois mois pour mettre sur pied concrètement cet organisme qui couvrira plus de 50 000 habitants et qui pourrait travailler sur les déchets verts, mais surtout sur les eaux usées. Objectif, raccorder les trois communes à la station d'épuration de Faléouté qui pourrait aussi à terme traiter les eaux d'une partie de Faa. Montant de l'investissement, au bas mot, 5,5 milliards de francs que les mairies devront financer sur fonds propres avec le pays, l'État ou même l'Union européenne.
On parle aussi de gros chiffres à Paris.
Avec cette taxe sur l'aérien évoquée fin juillet par Clément Beaune, le ministre des Transports d'Emmanuel Macron a annoncé que cette contribution supprimée il y a quelques années serait réintroduite dans la prochaine loi de finances pour financer justement 100 milliards d'euros d'investissement dans le train, mode de transport beaucoup plus écologique que l'avion. L'annonce a été applaudie par certains, mais pas du côté des élus ultramarins. Le sénateur socialiste de Guadeloupe, Victorin Lurel, a rappelé au ministre que le prix déjà très volatile des billets et que leur hausse se ferait aux dépens de la continuité territoriale. Il s'oppose au projet quand la députée polynésienne Mereana Redarbelo demande, elle, une exemption. J'invite le ministre à reconsidérer le référentiel pour les Polynésiens qui doivent parcourir 18 000 km et 12 fuseaux horaires pour passer Noël en famille. Elle a-t-elle expliqué sur les réseaux sociaux. Pour eux, le train n'est pas une option. Oui, à la transition écologique, mais pas au détriment des populations ultramarines. Fin de citation.
Et on finit par de la littérature.
De la littérature et de la tradition avec cet ouvrage consacré aux couronnes végétales de Tahiti. Un très beau livre de 190 pages signé Tiarenui Ebb, sage-femme de profession qui s'est pris de passion pour ses réalisations artisanales. À l'entendre, la couronne de fleurs n'est pas un objet immuable. Écoutez.
C'est aussi un accessoire de mode. Hein. Elle est venue avec la mode. Voilà, elle a été toute fine à un moment donné, parfois très sauvage. Et puis finalement, là, en ce moment, je ne sais pas combien de temps ça va durer, elle est énorme. De nouveaux végétaux ont été importés. Ça a donné envie aux personnes qui en faisaient de faire de nouveaux modèles avec des nouvelles fleurs.
Voilà, un livre qui parle d'histoire avec de nombreux documents anciens, de botanique bien sûr, mais aussi de technique avec des tutoriels illustrés. Écoutez.
Dans la première partie, je vous donne des techniques pour faire 560 dans des bases, hein, assez simples, pour pouvoir faire plusieurs types de couronnes. Dans la deuxième partie, je donne des exemples de création. C'est un livre qui est bien pour savoir faire des couronnes soi-même. Son autre intention, et c'est la plus importante, c'est d'attirer à nouveau le regard sur la couronne pour ne pas qu'elle disparaisse.
Couronne végétale de Tahiti, Tehei Upo'o no Tahiti, qui vient donc d'être publiée au Vent des Îles. Voilà, c'est la fin de ce journal. À noter que demain mardi, c'est Muetei Brotherson qui sera l'invité de la rédaction de Radio 1 à partir de 11h30 en direction de notre plateau. Nous parlerons bien sûr du bilan des 100 jours qu'a dressé le président du pays, mais pour le préciser, nous recevrons aussi tous les mardis et tous les jeudis jusqu'à fin septembre un des 10 membres de son gouvernement. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, ce sera pour la revue de presse.
Merci beaucoup Charlie.